chers amis de Radio Courtoisie, quelle joie de nous retrouver. Retrouver le studio, retrouver les amis de la technique, retrouver le secrétariat, même si à cette heure tardive il est un peu déserté, retrouver Paris et sa fraîcheur nocturne, elle aussi, ce soir, enfin retrouver. Revoir Paris, à Charles Trenet nous manque. Depuis ma venue au monde, j'avais pris l'habitude d'attendre avec impatience l'arrivée de l'été, saison bénie, saison, la saison du beau temps, de la douce chaleur, saison des robes aérées, de la venue des cerises, des fraises, des melons, des tomates, de tous ces fruits et légumes enfin parvenus à maturité et dont les parfums et les odeurs excitent les papilles. Et puis c'était enfin les vacances. On changeait d'air et d'habitude, on voyageait. Le dépaysement nous enchantait, les rencontres aussi, et puis l'aventure nous guettait. Chers amis de Radio Courtoisie, il faut bien le reconnaître, tout ça, c'était avant. Le dérèglement ou le changement climatique, comme il vous plaira, s'est imposé, nous offrant une chaleur et une sécheresse exceptionnelles. Nous avons subi 5 périodes de canicule telles que la France, dit-on, n'en a jamais connues de mémoire d'homme. Alors, de retour des Pyrénées en voiture, ma cure thermale achevée, j'ai traversé la France, asséchée, assoiffée et désolée, souffrante. À quelques kilomètres de chez moi, je remarque un gros nuage noir, puis blanc, puis noir et blanc, qui, à mesure que je roulais, prenait de plus en plus d'importance dans le ciel devant moi. « Il y a le feu quelque part, oh, ça doit être en forêt, » me disais-je. Oh, « Cela arrive de temps en temps, oui, oui, et les pompiers connaissent, ils savent faire. » Il faut vous dire que ma maison est située en bordure de cette merveilleuse forêt de Fontainebleau. Et arrivé chez moi, dans mon village, au Vaudoué, après un long trajet, heureusement sans encombre, affairé, voilà que je décharge mes valises, mes bagages et tout le Saint-Frusquin des vacances. J'appelle mon fils, puis mon voisin, les informant de mon retour sans problème. Et je m'effondre carrément sur mon canapé, harassé par ce long voyage et par toute la tension nécessaire quand on conduit. À peine détendu, je reçois un appel de mon voisin qui me dit « Les pompiers nous demandent d'arroser les toits de nos maisons. » Alors là, je comprends tout à coup que le feu n'est pas anodin, qu'il prend une tournure inquiétante, ce qui m'est confirmé par mon voisin qui alors me rappelle et me dit cette fois-ci qu'il serait prudent de préparer un petit sac, une petite valise, au cas où. Oh, je ne m'en préoccupe pas, car à mes pieds sont tous mes bagages, dont une petite valise contenant le nécessaire pour le voyage. Soudainement, venant de la rue, les hurlements d'un haut-parleur nous enjoignent, nous, les habitants du quartier, de quitter nos maisons au plus vite. La rue est évacuée. Les voisins, nous nous retrouvons avec eux, sur le trottoir, un peu hébétés, nous questionnant les uns les autres, avec gentillesse, respect, et gardant le sourire dans la détresse. Et où aller et que faire? Le haut-parleur nous dit de rejoindre la salle communale. Voyant des encombrements se former, je décide de prendre ma voiture, je franchis le bouchon qui bloque la rue, avec la gendarmerie qui tente de renseigner les habitants face à la salle communale, et je quitte le Vaudoué en direction de Boissy-aux-Cailles, à 5 kilomètres de là où réside mon fils. Chers amis de Radio Courtoisie, je vous entends déjà penser ou dire en vous-même, elle est bien gentille cette Nicole, Mais qu'est-ce que toute son histoire a à voir avec le monde de la foi? Vrai sujet de l'émission? Eh bien voilà. Arrivée à Boissy-aux-Cailles, je suis allée à la mairie, et là, Patrick Pochon, le maire du village, m'a généreusement accueilli dans la grande salle polyvalente de la mairie. J'étais sa première réfugiée. Et il allait peut-être devoir en accueillir d'autres. Mais il ne disposait pas de lit de camp. Alors peut-être devrait-il sortir les tapis de yoga. Enfin, il était si gentil, si attentif, en même temps si dépourvu. Il m'a offert à boire, puis des petits gâteaux et des petites tomates. Bien sûr, l'arrivée de migrants n'était pas prévue. Je l'ai rassuré. Mon fils allait m'héberger et Hélène, la voisine de mon fils, à qui je n'avais quasiment jamais parlé, est venue m'inviter dans sa maison. La chambre des enfants qui n'était pas là était à ma disposition, ce qui serait plus confortable pour moi, disait-elle. Alors j'ai accepté. Avec reconnaissance. Et j'y suis restée 3 jours. Nous regardions les nuages de fumée qui, par moments, arrivaient jusqu'à nous. Je me disais, mais peut-être est-ce ma maison qui brûle? Et le soir, mon fils venait et nous partagions le dîner dans le jardin, ensemble. Et ce fut le début d'une belle amitié avec Hélène. Dans le même temps, j'ai peut-être reçu une 30aine de messages téléphoniques de connaissances ou d'amis qui s'inquiétaient et qui m'invitaient à venir me réfugier chez eux. Tant de gentillesse, de prévenance, d'émotion et de cœur, tout cela m'a touchée et m'a émue. C'était tout à fait bouleversant. Et je pensais au bon samaritain. Cet homme plutôt mal vu de par ses origines, qui, dans l'évangile de Saint-Marc, soigne un inconnu blessé qu'il voit sur son chemin. Il ne le quitte pas avant de s'être assuré qu'il est entre de bonnes mains. Il paye même l'aubergiste qui l'héberge pour qu'il prenne soin de lui en son absence. Et serais-je capable, moi, d'être le bon samaritain? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, nous dit Jésus. Et dans l'évangile de Saint Jean, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dira-t-il plus tard. J'ai eu la chance de rencontrer ces bons samaritains. Ils ont participé activement à la sauvegarde du Vaudois, de ses habitants, avec cette gentillesse et cet amour altruiste, inconditionnel, qui m'a tant ému. Alors j'ai invité les bons samaritains. Bonsoir Chantal.
Bonsoir.
Merci d'être venue. Chantal m'avait proposé de m'héberger, elle aussi, lors de l'évacuation de mon quartier, et elle a pris soin de moi très activement il y a quelque temps, n'est-ce pas? Pour tout vous dire, elle est aussi l'épouse de Monsieur le maire du Vaudois. Et comme l'on sait, il y a toujours une femme remarquable derrière un homme exceptionnel. Alors bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Michel Calmy et merci d'être venu.
Bonsoir Nicole, bonsoir à tous.
Vous étiez et vous êtes toujours le grand chef d'orchestre de la commune et avec l'aide des pompiers et des agriculteurs, vous avez su nous sauver d'un grand désastre. Et je reçois aussi ce soir Nathalie, il y a deux Nathalie dans le studio. Il y a Nathalie qui est l'assistante que vous connaissez tous, et puis Nathalie Depas, qui est conseillère municipale du Vaudois, très à l'écoute des Valdéens, Les Valdéens, ce sont les habitants du Vaudoué. Et Nathalie était infirmière, elle est en retraite maintenant. Mais vous le savez, une infirmière un jour, c'est une infirmière toujours. Merci Nathalie d'être là ce soir, au loin du Vaudoué.
Bonsoir à tous, bonsoir Nicole.
Et alors voilà, nous voilà réunis, quatre Valdéens, des bons Samaritains, autour des micros de Radio Courtoisie. Alors Monsieur le maire, avant de nous dire comment cet incendie a commencé, s'est déclaré, écoutons cette belle chanson que Nathalie Depas, bonne conseillère municipale et de bons conseils pour notre émission, nous a concoctée.
Vous ne connaissez pas la peur, sans vous le monde serait de flamme. Ce métier qui touche tous les cœurs, de vrais héros remplis de belle âme. Chaque jour vous donnez toute la force pour aider la planète entière. Alors à ceux qui en sont morts, on pense à vous depuis la terre. Pompiers, merci d'être là.
Merci Nathalie, merci pour cette belle chanson que vous avez trouvée. Vous avez cherché longtemps ?
Oui, je l'ai trouvée sur Internet, effectivement, pour remercier nos sapeurs-pompiers volontaires qui étaient présents 24 heures sur 24. Nous avons vu des jeunes pompiers qui sont revenus de vacances. J'ai rencontré aussi un jeune papa, donc la femme venait d'accoucher, et qui est revenu spécialement pour venir nous aider au village du Vaudoué.
Alors, je crois que, pour parler de Jésus encore, avant de parler de nous, il avait repris la parole des anciens, ce commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Oui. Bien, tous ces pompiers l'ont prouvé et continuent. Alors, Monsieur le maire, comment ça s'est passé? Alors, comment est-ce que vous avez su qu'il y avait le feu? Comment? Racontez-nous.
Bien, Nicole, d'abord un petit rectificatif. Le maire, dans ces conditions-là, c'est pas un grand chef d'orchestre. C'est plutôt une personne qui cherche à rassurer les autres, à conserver sa place, à ne pas se forger une notoriété sur des événements pareils. Donc on se sent plutôt tout petit que grand chef d'orchestre.
Oh, c'est un grand samaritain, alors.
Non, c'est un mandat reste un mandat et il faut le vivre avec ses équipes et face à ses habitants.
Alors racontez-nous Comment vous avez su qu'il y avait le feu? Comment vous avez été prévenu? Comment ça s'est passé?
On n'a pas eu besoin d'être prévenu. Je veux dire, il y avait de tels panaches de fumée qui arrivaient de la forêt qu'il était clair qu'elle était déjà en train de s'enflammer. Ma femme Chantal, qui est ici, m'a dit mais viens voir dans le jardin. Et nord-est, on avait une fumée absolument gigantesque. Sur deux trois endroits qui se fumaient, qui se sont retrouvés regroupés ensuite. Et donc clairement ces fumées arrivaient de l'autoroute A6 qui se trouve à 5 ou 6 kilomètres de chez nous. Et le feu dominant qui n'était pas souvent dominant, nous le vent dominant c'est plutôt sud-ouest, là il était nord-est, mais il était quand même assez chaud et important ce vent, et donc il a suffi à faire progresser le feu sur ces 5-6 kilomètres en 2 jours.
C'était ces fumées que je voyais de loin en voiture, alors que je rentrais chez moi.
Absolument, oui. Mais on les voyait de très loin, parce qu'on avait même des amis de Chartres qui téléphonaient en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces panaches de fumée ?»
Alors tout de suite, vous avez eu peur pour la forêt ? Vous avez...
On n'a pas eu peur pour la forêt, on savait qu'elle brûlait. C'était plus de la peur, maintenant c'était tout de suite réagir pour voir ce qu'il fallait faire pour protéger le village, protéger ses maisons, évidemment protéger ses habitants. Genre, la question c'est pas posée de... La forêt, de toute façon, elle est sous la protection des pompiers qui ont été vite regroupés par centaines. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter l'État. C'était vraiment d'un seul coup énormément de moyens à notre disposition.
Mais il y a les pompiers à la chapelle La Reine, c'est-à-dire à 5 kilomètres. Mais ils n'étaient pas de sang.
Non, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Sur un département, et nous en plus, on est à la limite de 3 départements, on a ce qu'on appelle des SDIS, hein, c'est-à-dire des centres départementaux. Et ces centres départementaux, gèrent un grand nombre de casernes qui sont réparties sur le territoire. Et dès qu'il y a une fumée qui sort, en particulier d'un massif forestier comme le nôtre, qui fait 22 000 hectares, c'est pas une caserne qui est en alerte, c'est 25.
Ah oui. Et alors vous êtes allé sur le feu, comment ça s'est passé pour vous?
Oui, enfin moi je suis pas pompier, je veux pas aller ennuyer les pompiers. Évidemment j'étais sur le feu.
Vous êtes allé aux nouvelles quand même.
Très rapidement, quand un feu majeur se démarre, les pompiers organisent un centre de commandement. Donc nous sommes retrouvés très très vite au centre de commandement qui avait été créé dans le village d'à côté, sur Noisy-sur-École. Et là, on a pris les informations dont on avait besoin pour retourner dans nos villages, rassurer les populations. Et puis également...
Noisy-sur-École était touchée aussi par le feu?
Oui, en fait, il y a eu un premier foyer sur la forêt de Fontainebleau qui était essentiellement sur le massif des Trois Pignons, c'est-à-dire tout ce qui est à l'ouest du massif de Fontainebleau, et donc aussi à l'ouest de l'autoroute A6, bien que le feu ait démarré de l'autre côté de l'autoroute. Donc il a sauté l'autoroute, et on a fermé l'autoroute tout de suite d'ailleurs.
Oui, donc... Donc, le feu ayant traversé,
oui.
Il s'approchait du Vaudoué.
Pas tout de suite, hein. Il s'est approché le lendemain soir. Mais enfin, les choses étaient claires. Il allait avancer. Quoi.
Comment étiez-vous informé?
Par le centre de commandement, j'étais en relation directe avec un colonel. Et donc, j'avais l'information directe, bien sûr.
Et et la décision d'évacuer, comment ça s'est passé?
Alors elle est collégiale, sauf s'il y a une telle urgence qu'à un moment donné, celui qui est face au feu décide tout seul. Il y a plusieurs... plusieurs niveaux de responsabilité. Le SDIS peut très rapidement dire, le SDIS, donc les pompiers, le centre de commandement, dire, ben voilà, à tel endroit, ça progresse vite, donc il va falloir évacuer la population qui se trouve devant. Mais on a aussi les communes, hein, qui ont un rôle à jouer, parce que nous, on connaît bien le terrain, on sait où sont les maisons isolées, on sait où sont les orées de bois, où on n'a pas un chemin à l'arrière pour pouvoir passer et arroser les maisons. Donc, c'est ensemble qu'on prend ce genre de décision, Et puis évidemment, avec tous les organes de sécurité qui nous rejoignent, en particulier la gendarmerie, tout ce que on peut avoir de disponible à ce moment-là, mais ils sont vite mis en marche, les gens de la préfecture, bien sûr, donc l'État.
Oui. Alors, je voulais demander à Nathalie, parce que Nathalie habite vraiment tout au bord. Déjà, c'était la forêt avant. C'est une partie de la forêt qui est devenue votre maison. Où est venue votre maison?
En fait, j'habite à 200 mètres à peu près du parking de la Mée, qui fait partie du parcours des 25 bosses. Donc, je ne suis pas une des premières maisons à côté de la forêt. Mais effectivement, je suis très proche.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit que... Quand on a évacué chaque maison, racontez-nous.
Alors, lorsque le feu, je suis arrivée à mon domicile à 17h, le feu était à 3 km. Effectivement, à 20h, le feu n'était plus qu'à une centaine de mètres. Donc, à chaque évacuation, un camion de pompiers se mettait en place. Et ne pas oublier aussi nos agriculteurs. En fait, il y avait un camion de pompiers et un agriculteur avec le nécessaire d'eau. Et comme nous dit un autre de notre élu, nous avions de la chance d'avoir la borne numéro 6, une borne que la mairie venait juste de faire réparer. C'était une grande chance.
Bravo, monsieur le maire. Alors, vous m'avez dit que devant chaque maison...
Non, c'est même pas devant chaque maison. En fait, au départ, les pompiers étaient alignés. Nous avons de la chance d'avoir monsieur Renard, qui est un ancien pompier, un Valdéen, qui s'est mis en relation avec les pompiers et les paysans. Donc, à chaque départ de maison, un camion de pompiers s'installait dans la cour ou à l'intérieur de la propriété, et ainsi que des paysans. Donc, ça permettait en fait de sécuriser chaque maison. Et il me semble, monsieur le maire, que le choix des pompiers avait été fait, ils savaient que la forêt brûlait, mais c'était de protéger nos habitations.
Et vous m'avez parlé aussi de... vous vous êtes retrouvés donc devant chez vous?
Moi, en fait, à chaque départ de maison, effectivement, on était devant. À chaque départ, on nous demandait d'ouvrir le portail. Nous sortions, nous étions bien sûr évacués. Et à chaque évacuation, un camion de pompiers rentrait, ainsi que des paysans. Et voilà, on sortait de chez nous, effectivement, sachant que nos maisons étaient sécurisées.
Ah oui, c'était... On avait peur.
Les pompiers étaient... Alors, vous dire que j'ai eu peur... Pour la forêt, oui. Pour nos habitations, non, parce que vraiment, ils étaient vraiment très rassurants en disant qu'ils allaient faire le nécessaire. Et effectivement, ils ont fait le nécessaire pendant plusieurs heures et plusieurs jours.
Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi des animaux?
Alors, les animaux, c'est beaucoup plus difficile. Hein. C'est beaucoup plus difficile pour les animaux. Nous savons très bien qu'une partie de la faune et de la flore a disparu actuellement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir sauver un petit hérisson. Ça paraît peut-être bénin, mais en fait, c'était un hérisson qui était blessé. J'ai réussi à le sauver. Le plus difficile, c'est surtout alors, au retour à nos domiciles, le mercredi après-midi, c'est de rentrer dans un silence. En fait, je suis rentrée et il y avait ce silence. Plus de... chants d'oiseaux, pas de bruit d'insectes, nos guêpes, nos frelons, on n'aime pas trop les frelons, mais pas de traces de frelons, pas de traces de guêpes, pas de traces d'abeilles, des papillons, aucun papillon, il y a un silence absolu.
Oui, c'est, et on m'a dit aussi une expression que la forêt était, généralement elle est en couleur avec des fleurs.
Oui, on avait une forêt qui était pleine de couleurs, hein, vu que c'était la saison, donc nous avions toutes les couleurs. Et au retour, effectivement, c'était une forêt en noir et blanc. Et ça, c'est très triste et très surprenant.
Je trouve que c'est une image qui frappe énormément.
Qui frappe énormément. J'ai ma voisine qui est un jeune couple qui était en pleurs. De toute façon, de voir cette forêt, ça nous attriste. Et c'est vrai que c'est très difficile pour nous.
Très, 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 très douloureux. Parce qu'il faut dire que les habitants du Vaudois ne sont pas au Vaudois par hasard. Ils sont, la plupart des habitants du Vaudois viennent pour la forêt. Il y a aussi tous ceux qui pratiquent l'escalade. Je ne sais pas où en est la forêt. Vous y êtes allé, Michel, dernièrement ?
Oui, bien sûr, hein, j'y suis tous les jours.
Racontez-nous un peu où vous en êtes aujourd'hui.
Ah bien, comme le dit Nathalie, la partie nord-est du village, hein, qui correspond à peu près en fait à la forêt domaniale, donc gérée par l'ONF et appartenant à l'État, a disparu.
Donc
elle est en noir et blanc, elle est clairement en noir et blanc, et bon, actuellement on a des forestiers qui coupent les arbres les plus menaçants. Donc cette forêt là elle va mettre un certain temps à redémarrer, et puis surtout on va mettre un certain temps à la rouvrir, parce que il faut évidemment protéger les gens. La meilleure façon de les protéger, c'est de que l'on ne puisse pas rentrer dans le massif forestier. Pour autant, il y a des signes d'espoir, hein, puisque on sait qu'elle se régénérera, et on trouvera toutes les bonnes volontés et les savoir-faire pour ça, mais on a une grande partie de la forêt autour de nous qui n'a pas brûlé, donc on va aussi s'appuyer là-dessus. La forêt de Fontainebleau, c'est 22 000 hectares, c'est 2 000 qui ont brûlé, donc c'est à peu près 10%. Mais les 10% qui
c'est
sont autour de notre village, donc pour nous, c'est beaucoup. De l'autre côté de la forêt, en lisière est, c'est-à-dire sur les villages qui sont en bord de la Seine, ils n'ont pas eu de feu. Donc, voilà. Et donc moi, j'invite les gens à continuer à visiter la forêt de Fontainebleau. Hélas, le massif des Trois Pignons ne rouvrira pas tout de suite, mais tout le reste rouvrira prochainement pour le plaisir des promeneurs, des grimpeurs. C'est un spot international de trail, de varap, de marche à pied, et il faut que ça reste ça. C'est un des atouts de cette région de l'Île-de-France.
On dit que c'est le poumon pour Paris.
Ah, je ne sais pas si c'est un poumon, mais en tous les cas, c'est une forêt irremplaçable. Donc, et bien entendu qu'on va être attentif à sa renaissance.
Je voulais parler de la forêt. Ce qu'en dit Chateaubriand, qui dira le sentiment qu'on éprouve en entrant dans ces forêts aussi vieilles que le monde, et qui seules donnent une idée de la création telle qu'elle sortit des mains de Dieu.
Et c'est superbe ça. Mais au niveau tout simplement humain, ce que nous sommes, ce que vous disiez tout à l'heure, toutes les deux, on n'habite pas dans ces villages de forêt sans y avoir été appelé par la forêt elle-même. Je crois qu'au Vaudois, qu'on soit d'anciennes générations, souvent des agriculteurs, ou des gens arrivés plus récemment, ou maintenant des résidences secondaires, gîtes et maisons d'hôtes, puisqu'on est devenu aussi une attraction touristique, on ne vient pas si on n'est pas amoureux de la forêt. Donc on est tous amoureux de notre forêt. Alors on peut s'engueuler sur tous les sujets, mais celui-là nous réunit.
Je vais aussi maintenant citer Lamartine. On vit de souvenirs. C'est dans ces promenades au bord de ces forêts que j'ai laissé traîner mes rêves et mes larmes. C'est dans le lac.
Oui, je vois bien. Oui.
Oui. Puis j'avais aussi un Victor Hugo. Dans la forêt, loin du monde et de l'homme, sous les grands bois, dans la paix, dans la nuit, l'âme s'enfonce et tout à coup se nomme, et devant Dieu, tout entière se conduit. La poésie aide à vivre.
Ah ben la poésie, c'est indispensable. La poésie, c'est la vie.
Je crois que vous êtes un petit peu poète, monsieur le maire.
J'aime la poésie.
Vous pouvez nous dire quelque chose ?
Non, je vous dirai seulement que j'aime la poésie, je me contenterai de ça, mais j'ai toujours pour m'endormir un livre ou deux de poésie sur ma table de nuit, ça me fait beaucoup de bien. Là en ce moment, je relis du Victor Hugo et du Baudelaire.
Et justement, je crois que vous nous avez apporté quelque chose, un disque. Dites-nous un petit peu.
Oui, vous m'avez demandé de choisir quelques morceaux de musique. En l'occurrence, on joint l'amour de la musique à l'amour de la poésie. Baudelaire a été mis en musique par beaucoup de personnes. Et là, je vous ai choisi un interprète qui a aussi fait la musique et qui s'appelle Michel Desproges, alors qui est un excellent guitariste. Il habite tout près de chez nous, entre Nemours et Fontainebleau. Et il met en musique les poètes. Et en l'occurrence, là, il y avait un disque où il mettait en musique Baudelaire. Et dans Baudelaire, il y a une des poésies les plus connues qui s'appelle L'Albatros, que je trouve très jolie, parce que finalement, c'est aussi le poète isolé, mais qui ne perd pas espoir. Et puis face au feu, il reste la foi et l'espérance. Donc je pense que cet albatros, quand il sera relâché, il repartira dans les nues.
Espérons-le.
Pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traîner à côté d'eux. Voyageur ailé, comme il est gauche et veulent, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Était semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Vous écoutez.
du monde de la foi, une émission créée par Jean Christaki de Germain, dirigée par Nicole Pilorge. Une émission intitulée ce soir Incendie et feu de l'amour. Nicole reçoit Michel Calmy, maire du Vaudois, et sa femme Chantal, et Nathalie Depas, conseillère municipale du Vaudois.
Quelle belle chanson, quel beau texte bien sûr, mais c'était la poésie, n'est-ce pas Michel ?
La poésie à l'état pur, ça oui, tout à fait, une belle leçon de vie aussi, sur l'isolement, mais la beauté des choses.
Et je pensais aux oiseaux dans la forêt, comment ont-ils fait ?
Ça nous ramène à notre premier sujet. D'abord, vous avez oublié de dire que Nathalie, elle n'est pas seulement conseillère municipale, mais elle s'occupe aussi de notre CCAS, hein, c'est-à-dire du centre communal des actions sociales, à qui elle y met une rage et un cœur fantastique. Je suis très heureux de l'avoir dans notre équipe. Et je peux vous dire qu'en dehors de ces moments difficiles qu'ont été cet incendie absolument épouvantable, il faut savoir qu'il a été encadré par deux canicules, et nous avons aussi dans notre village des personnes isolées, des personnes âgées, et elles s'emploient à demander de leurs nouvelles, à leur porter assistance, et je trouve ça extraordinaire. Donc je veux la féliciter devant tout le monde.
Oui, mais moi je suis contente de l'avoir connue comme ça, parce qu'elle m'a téléphoné en me disant alors comment ça va, je vous appelle parce que il fait chaud, est-ce que vous buvez suffisamment, est-ce que je ne la connaissais pas.
Elle
c'était
très bien, hein.
Le premier contact avec elle. Et puis, ce qui est très étonnant aussi, c'est que j'étais aussi dans les Pyrénées à un moment, et je reçois aussi, mais c'est Nathalie qui veut savoir comment vous allez, je dois prendre soin des administrés, de monsieur le maire.
Je vais vous raconter une anecdote.
Oui.
Entre moi et Nathalie, c'est qu'en fait, on a une petite liste de gens que l'on sait peut-être un peu fragiles, mais globalement, on essaye d'appeler tous les gens de plus de 70 ou 75 ans et d'avoir de les nouvelles. Or, moi, j'ai plus de 75 ans. Depuis pas très longtemps, mais je les ai quand même. Or, j'étais en mairie et Nathalie téléphonait aux gens de plus de 75 ans. Et en gros, elle me regarde et on se dit, mais moi, mère de 75 ans, il faut que je rentre chez moi pour qu'elle puisse m'appeler, quoi.
Et pour boire.
Et pour boire, on a bu beaucoup d'eau. Oui.
Alors, aujourd'hui, comment ça se passe actuellement ? Il y a des reprises de feu.
Oui, bien sûr.
Parce qu'on n'est pas du tout au courant, on aimerait bien en savoir un petit peu plus.
Non, c'est pas la peine d'être au courant de tout. C'est très anxiogène et c'est pas forcément utile. Il faut avoir la bonne information au bon moment. Une forêt comme la forêt de Fontainebleau est une forêt très tourbeuse. C'est-à-dire qu'entre les rochers ou à chaque fois qu'il y a une excavation, on se retrouve avec des dépôts organiques qui peuvent s'enflammer à tout moment et éventuellement même ressurgir plusieurs mètres ou plusieurs dizaines de mètres après. Ce qui est important, et c'est ce qui a été dit au bout de 5 ou 6 jours de ce feu, c'est que le feu était fixé. C'est-à-dire qu'on lui donne un périmètre, et là, les secours au centre de commandement, on nous dit, voilà, le feu est fixé dans cette surface-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il est éteint, il est fixé. Et on le voit bien aujourd'hui, hélas ailleurs que chez nous, puisque les feux se propagent en France. Feu fixé veut dire qu'il peut reprendre, mais dans ce périmètre dit du feu fixé. Or, on est là pour, aider les gens, mais certainement pas pour les inquiéter. Donc on ne va pas tous les matins faire le bulletin de santé de la forêt en disant que ça a repris 25 fois dans le feu fixé. On sait que de toute façon ça reprend. Donc ça, on ne le dit pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On le dira si le feu redémarre en dehors du feu fixé, parce que là, ça veut dire qu'il continue à progresser. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on a encore sur place à peu près, ce matin, je crois que c'était de l'ordre de 120 pompiers. En gros, ils font les 3 fois 8, hein, les pauvres. Donc 40 sur le terrain en permanence, et puis deux équipes derrière qui viendront. Et à chaque fois qu'une fumerole surgit ou une flamèche, eh ben, ils sont là, ils éteignent. Et évidemment, ce qui va nous aider, c'est la nature. La nature qui a bien fait la démonstration qu'elle nous domine. Et la nature peut faire en sorte de nous amener un peu de fraîcheur et un peu de pluie, c'est ça qu'on attend.
Ah oui, le jour où la pluie viendra, je n'ai pas mis la chanson de Gilbert Bécaud, mais ouais. On y pense. Ah. On y pense. Mais j'avais souhaité recevoir dans l'émission un pompier, un valeureux pompier. Vous m'aviez d'ailleurs conseillé un jeune Valdéen qui est maintenant professionnel et ils ne peuvent pas venir, ils n'ont pas le temps, même pas le temps de répondre. Enfin, j'ai eu un vague message, mais ils sont aux affaires, ils sont sur le feu.
Oui, oui. D'abord, aujourd'hui, ils sont tous nous réquisitionnés. Oui, alors ce jeune homme, c'est dommage qu'il soit pas là, parce que c'était un bel exemple et c'était aussi une belle trajectoire. C'est un enfant du pays, alors qui est fils de pompier lui-même, d'abord jeune pompier volontaire, puis aujourd'hui président des jeunes pompiers du SDIS du sud de la Seine-et-Marne et pompier lui-même. Donc aujourd'hui, évidemment, il est au feu, ou s'il n'est pas au feu en Seine-et-Marne, il est parti au feu dans les Landes ou en Gironde, mais il est quelque part. Et ça aurait été intéressant effectivement qu'il donne sa vision des choses et qu'il nous explique comment finalement on fait une vie comme ça tournée vers le secours. Mais bon, il est pas là, mais voilà, je peux essayer de témoigner pour lui, mais pas seulement pour lui, pour tous ces jeunes. Très souvent dans les casernes provinciales, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les grandes villes, on a des groupes de jeunes pompiers, donc ils ont des associations, et ils s'épaulent eux-mêmes, ils apprennent le métier, souvent ils deviennent des pompiers professionnels, et je trouve que ça c'est une partie de notre jeunesse qui est très belle. Et qu'il faut saluer.
Ah oui, ah oui. Aimez-vous les uns les autres, etc. Là, vraiment. Et je voulais vous demander aussi, actuellement, donc il y a ce sont des bûcherons qui travaillent, parce qu'il y a des arbres qui sont en déséquilibre, des arbres qui vont tomber, des arbres qui sont à moitié brûlés, d'autres. Comment est-ce qu'on fait? Comment ça se passe, le tri?
Alors d'abord, je dirais pas qu'il y a deux types de forêts. Il y en a certainement plus que ça, mais en l'occurrence chez nous, il y a une forêt, mais qui est partagée entre la forêt dite domaniale qui appartient à l'État, hein, et qui est gérée par l'ONF, et puis une forêt qui est privée, c'est-à-dire c'est un ensemble de parcelles privées, souvent de multiples parcelles privées, avec parfois des gens qui savent même plus qu'ils ont un bout de bois dans leur propriété. Dans tous les cas. Il faut gérer cette forêt qui a brûlé. Alors c'est d'abord la mettre en sécurité vis-à-vis des gens qui pourraient l'allonger, voire y pénétrer. C'est-à-dire que partout où il y a des voies d'accès, des voies de circulation, éliminer tous les arbres dangereux. Et donc c'est ce qui se passe actuellement. Ou bien ce sont des forestiers qui appartiennent à l'ONF, ou c'est des sociétés qu'ils emploient en sous-traitance pour le faire. Mais là, actuellement, c'est, je dirais, c'est la grosse activité du massif à l'heure actuelle. C'est effectivement de mettre en sécurité et d'abattre tous les arbres, d'abord les plus proches des sentiers et des routes, bien sûr, hein, pour permettre à la population de circuler, et puis au service incendie de circuler aussi. Et puis après, se posera la question de rentrer davantage dans le massif et de voir quel arbre est condamné et quel arbre n'est pas condamné.
Je le vois près de chez moi. Tous les sentiers, il y a des rubans rouges et blancs qui ferment l'entrée des sentiers.
Oui. L'ensemble du massif de Fontainebleau au sens large, c'est-à-dire y compris le massif des Trois Pignons dans lequel nous vivons, y compris le bois de la Commanderie, qui est un bois qui est plus au sud, entre
du côté de Villiers-sous-Gré, par là,
Nemours, Larchamps. Voilà, ces massifs, bien qu'ils n'aient pas tous brûlé, fort heureusement, puisqu'on vient de dire tout à l'heure que ces 10% qui ont brûlé, par mesure de précaution, sont fermés par arrêté préfectoral. Et donc ils le sont aujourd'hui jusqu'au 21, puisque ça a été renouvelé encore avant-hier. L'idée, vraisemblablement, et on en parle évidemment avec monsieur le préfet, c'est de pouvoir rouvrir partiellement la forêt là où elle n'a pas brûlé, là où il y a un sens, pour que les gens puissent y retourner, qu'il s'agisse des touristes qui viennent pour grimper ou pour marcher, ou simplement notre population qui a aussi besoin de retrouver son massif forestier.
Oui, mais je dois dire qu'on a une certaine curiosité. Moi, je me dis à partir de quel endroit, les endroits où je vais me promener, est-ce qu'à cet endroit, il y a encore des arbres, est-ce que...
Je pense que le massif des Trois Pignons, c'est le plus proche du Vaudois, lui, il est quand même condamné pour quelques mois. Mais tant pis, faisons quelques kilomètres et allons voir plus loin. Il est important de faire cette réouverture différenciée du massif de telle façon qu'on les gens puissent à nouveau
Merci de le dire, hein, parce qu'on a besoin de savoir ça. Donc c'est à nouveau fermé pour
jusqu'au 21, tout sera fermé, je pense, mais moi je suis pas c'est pas à moi de parler à la place de monsieur le préfet, qui fait très bien son travail avec ses équipes. Vraisemblablement, on va surtout si la température s'abaisse et qu'il pleut un peu, on va pouvoir rouvrir partiellement ce massif et donc faire en sorte que la population puisse y retourner, et puis que nous sommes quand même une région touristique. Fontainebleau est bien connue pour son château, ses châteaux, parce qu'il n'y a pas que le château de Fontainebleau, également pour sa forêt, mais pour ses bords de Seine. Mais voilà, il faut pas qu'on perde cet aspect touristique là qui fait aussi partie de l'économie locale, et donc on va être soucieux de remettre en bon état de marche cette forêt, au moins là où elle a pas brûlé, de telle façon que puissent revenir les gens qui nous visitent, d'abord les gens de nos villages et les gens qui nous visitent. Il faut savoir que la forêt de Fontainebleau, c'est 13 millions de visiteurs par an.
Voilà.
Et donc, ces gens-là, ils doivent piaffer d'impatience. On est un spot pour ce qui concerne notre secteur des Trois Pignons, un spot d'escalade et de trail international. On a des gens qui viennent du monde entier s'entraîner à la varap et à l'escalade.
Oui,
donc ça, il faut pas le perdre.
Oui, sur les parkings, on voyait les voitures, on voit l'immatriculation des voitures, c'est le monde entier, effectivement.
Oui, alors du coup, je suis un maire un peu tiraillé, parce que avant l'incendie, j'étais le premier à râler quand il y avait un peu trop de monde dans les parkings et que du coup il débordait sur nos routes communales, rendant difficile la circulation et déjà l'accès au secours, parce que les varapeurs, souvent ils se tordent une cheville ou ils s'abîment une épaule, et pour aller les chercher dans le massif, il faut bien que les secours passent. Donc voilà, on est passé d'une extrême à l'autre, d'un parking trop rempli à un parking désespérément vide.
Mais la vie du maire et de madame, la vie de famille, je crois que vous deviez prendre des vacances, vous deviez partir un certain matin. Et alors, que s'est-il passé? Qui est-ce qui est arrivé? Racontez-nous.
Oui.
Chantal, qui est arrivé? Alors que vous deviez partir.
Qui est arrivé? Elle n'ose pas le dire.
Ce n'est pas Zorro.
Non, d'abord dire que voilà, il y a des notoriétés qu'on ne souhaiterait pas avoir. On a été dans le centre commandement visité d'abord par le monsieur Nunez, le ministre de l'Intérieur, et qui est venu nous rassurer sur tous les tous les éléments de sécurité qui étaient mis à notre disposition, c'était absolument gigantesque. Il se trouve qu'il y a un an, on avait fait d'ailleurs une simulation et qui d'un feu majeur en forêt de Fontainebleau qui s'avérait à peu près ce qu'on a vécu cette année.
Ah oui.
Et donc le ministre Nunes est venu nous confirmer tout ce qu'il y avait pour nous assister dans la défense contre cet incendie. Et puis derrière, on a eu le président Macron qui est venu nous voir. Alors souvent, ce qu'on a vu
le jour de votre départ,
vous deviez partir en vacances. On voulait pas partir longtemps. On a réussi à partir quelques jours. Il fallait prendre l'air parce qu'on avait avalé beaucoup de fumée quand même et très peu dormi pendant 3-4 jours. Mais j'avais avec l'équipe, on faisait des rotations. Nathalie était là et puis il faut savoir que la mairie, elle était ouverte 24 heures sur 24 pendant 8 jours. Et on a trouvé des bénévoles et les conseillers municipaux pour accueillir les gens même à 3 heures du matin. Enfin, pour revenir donc à ce jour où on aurait pu partir en vacances, le président Macron s'annonce et c'était très bien. C'était très bien. Alors, ce qu'on a vu sans doute à la télévision, c'est seulement des gens en randonnion qui serraient la main du président de la République. C'est évidemment pas ça qui s'est passé, même si c'est ça qu'on a montré dans les médias. On s'est ensuite enfermé avec lui pendant 2 heures et on a réellement travaillé. On a travaillé à la fois sur les moyens mis en œuvre. On avait besoin d'être assuré et comme représentant de l'État, il était là pour nous dire ce qui allait pouvoir mettre à nouveau à notre disposition. Il faut savoir qu'on était vraiment au milieu de l'incendie. Et puis également, déjà, un message d'espoir, d'espérance. Puis l'espérance, c'est quand même une des trois vertus théologales bien connues dans cette maison. Et c'était important. Il nous a amené l'espérance, c'est-à-dire... Un, on ne nous laisserait pas tomber, ce qui a été le cas, mais que derrière, il y avait des solutions d'éveil de notre forêt et de secours de nos populations. C'était vraiment bienvenu.
Alors, je crois que nous avons un petit bobino à faire passer pour la radio.
Chaque été, plus de 50% des donateurs de Radio Courtoisie cessent de financer nos programmes, mettant dangereusement notre existence en péril. N'abandonnez pas votre radio sur la route des vacances. Radio Courtoisie continue d'émettre en juillet et en août, mais nous avons besoin de vous pour passer le cap de l'été. Donnez à Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Eh oui, car Radio Courtoisie ne vit que des dons de ses auditeurs. Il n'y a pas de publicité, même pour le Vaudois. Ça n'est pas une publicité. Je voulais aussi vous dire un poème de Baudelaire, moi aussi. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Et oui, ça, c'est un extrait de correspondance. C'est un poème qui me vient souvent quand je marche dans la forêt. Ces arbres comme des piliers, magnifiques. Alors, nous avons subi vraiment la fumée. La fumée, c'était très désagréable. Quand je suis rentrée, tout était fumeux et enfumé.
Oui, et puis et la fumée se propage partout. Et en plus de ça, nous, on est sur un massif où il y a quand même pas mal de résineux. Et la fumée des résineux, c'est très âcre. Et donc, d'ailleurs, beaucoup de gens ont assez spontanément ressorti les masques du Covid. On a tous retrouvé une boîte qu'on avait mise au fond d'un tiroir. Et on a traversé le village. Et on a à nouveau retrouvé des gens masqués comme au plus sale jour du Covid, je dirais.
Oui, et deux nuits, je me suis réveillée avec la gorge mais qui piquait, vraiment. Alors j'ai pris du miel jaune, orange, on fait ce qu'on peut. Voilà.
Bah, le mieux, c'est de s'abriter de la fumée, rester chez soi.
Oui, mais ça venait, il faisait très chaud. On avait envie d'ouvrir de l'air, mais l'air était, pollué.
C'était une grande question qu'on s'est posée avec le préfet et les secours. On avait déjà, en gros, évacué la moitié du village. Là, pour des raisons de proximité du feu. C'est-à-dire que... et d'ailleurs, les pompiers avaient cessé de lutter contre le feu, qu'ils laissaient avancer, et ils protégeaient les maisons. C'est-à-dire, en fait, ils étaient dos au feu, et ils arrosaient les maisons. Et ils ont eu raison, parce que on a beaucoup de maisons isolées en orée de bois, et dans le bois. Et si on n'avait pas fait ça, je pense qu'elles seraient toutes parties en fumée. Ceci dit, le feu avançait jusqu'au bord du village. Alors, on avait... évacuer le nord du village, puis l'est du village, parce que la route qui mène à Cher avait également été traversée, que du coup, il y avait un danger pour tous les gens qui habitaient à l'est du village. Mais les gens ont très rapidement trouvé à se reloger, comme vous, dans le village d'à côté, mais également dans le village lui-même, c'est-à-dire en allant finalement à 4 ou 5 rues plus loin, se faire héberger par la famille ou des amis. Et ce qui a été terrible, c'est qu'à un moment donné, le sous-préfet me rappelle, mais en disant « Monsieur le maire, il n'est pas impossible que, non plus à cause de l'avancée du feu, mais parce que les fumées deviennent toxiques, je vous demande d'évacuer tout le village. » Et là, je me voyais difficilement aller voir les gens qui avaient hébergé quelqu'un, dire à la fois à l'hébergeur et à l'hébergé, « Désolé, c'était pas la bonne idée, maintenant tout le monde s'en va. » On a échappé à ça, et je suis assez content de ne pas avoir eu à le faire, mais c'était quand même, je pense que c'était limite et que la question s'est vraiment posée.
Oui, mais même à Boissy-aux-Cailles où j'étais, donc, à un moment, mon fils me dit « Il faudrait qu'on trouve un plan B. » Donc, on a téléphoné à des cousins près de Corbeil qui ont dit « c'est bon, vous pouvez venir. » Mais vraiment, une gentillesse, un dévouement de tout le monde.
Ça, c'est ce qu'on retiendra de cette période-là, ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Il est sorti de tout ça beaucoup de solidarité, de bienveillance, de bénévolat.
D'amour.
D'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A, c'est l'amour sans esprit de retour.
Inconditionnel.
C'est absolument inconditionnel, c'est le mot.
Comme quand on va à la gare, on prend un billet, un aller simple.
Ça, c'est
et
le...
Voilà.
C'est une belle leçon de vie qu'on a.
Ça faisait du bien.
Qu'on a pu traverser malgré le malheur que vivait le village, oui.
Alors là, j'ai retrouvé un papier du 15 juillet. C'était la ville du Vaudois, département Seine-et-Marne. Accueil @levaudois. Point de situation du 14 juillet. Fin de journée. Évolution positive. Une réunion a eu lieu en fin de journée le 14 juillet 2026. Nous attendons le communiqué de presse du préfet de Seine-et-Marne qui déterminera les consignes que nous serons en mesure de vous annoncer. Sachez dès maintenant qu'il contient l'information confirmée également par le général Mastracci en charge de la lutte contre l'incendie. Le feu est à 7 heures estimé, fixé. Voilà. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de reprise. Et c'est pourquoi les pompiers resteront sur place le temps nécessaire afin de s'assurer de l'extinction des foyers restants. Oui. Ça, c'est un papier de Monsieur le maire dans la boîte à lettres.
Oui, c'était peut-être la première nouvelle où on sortait un petit peu la tête du sac. C'est quand on nous a dit que le feu était fixé. Parce que je pense que ces gens-là ne disent pas ça pour nous faire plaisir. C'est que d'un seul coup, ils avaient conçu un système pour entourer la progression du feu. Ils pouvaient estimer qu'ils ne sortiraient plus de cette emprise-là. Et nous, on attendait ça quand même depuis 3 jours.
Quoi. Ah oui.
Et je veux rajouter, on a eu de la chance d'avoir nos agents municipaux comme Cyprien qui venait d'être papa et qui a passé son temps, si vous avez eu ce courrier, c'est grâce à lui.
Ah oui. Nathalie, il faut parler vraiment près du micro, puisqu'on perd tout ce que vous dites, les belles choses que vous racontez. Eh bien, monsieur le maire Michel, est-ce, vous avez apporté une autre musique qui vous plaît?
Oui, tout à fait.
Vous avez eu envie de nous offrir, de partager?
Ouais, j'espère que ça vous plaira aussi. D'abord, je suis très heureux que quand on est accueilli chez vous, on nous demande nos goûts artistiques, c'est bien. Là, en l'occurrence, j'ai choisi un disque que j'écoutais il y a bien longtemps et qui m'avait à la fois fait approcher, j'avais 18-20 ans, et le jazz et la grande musique. Et depuis, j'aime les deux. Et je suis très content d'aimer les deux. D'abord, parce que le jazz, c'est aussi un peu le pays de Fontainebleau, avec le festival de Django Reinhardt. Et puis la grande musique, parce que elle est de tous les temps. Là, en l'occurrence, c'est un artiste de cette époque-là qui s'appelait Jacques Loussier, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Oui. Et Jacques Loussier avait déjà fait un certain nombre de disques qu'on appelait le playback. Alors du coup, les gens qui faisaient de la grande musique... Ben, le regardait un peu de travers comme étant un drôle de personnage qui sortait la grande musique de son classicisme. Et puis les gens du jazz, du coup, ben, le trouvaient pas forcément un jazzman comme les autres. Et donc, il y a certainement une période où il s'est pas positionné dans la perception que les gens avaient de lui. Et ceci dit, il a fait une très belle carrière. Il faut peut-être avoir mon âge pour se souvenir de ça. Mais retrouver ses disques, vous voyez, c'est assez exceptionnel. Et donc, ce playback, c'est à la fois un hommage à la grande musique, mais c'est aussi une aventure de jazzman. Et là, je vous ai trouvé un adagio de Bach. Donc ça dure 3 minutes, donc ça va pas vous endormir. Et en plus, comme c'est un petit peu sous forme de jazz, c'est très rafraîchissant.
Eh bien, c'est les deux à la fois.
C'est les deux à la fois. Enfin, j'espère que vous le percevrez comme ça, mais vous allez peut-être percevoir autre chose.
On va vous dire. Eh bien, merci de nous apporter cette musique qui est à la fois puissante, profonde, classique et moderne. Merci Michel.
Mais
heureux, Monsieur le maire.
Heureux que ça vous ait plu. Moi, je suis toujours touché par la musique de Loussier. Je pense que c'est un message à l'épuiser dans le passé, ce qu'il y a de meilleur, et de le proposer sous une forme moderne.
Oui, puis ça n'est pas trahir, là. Pas du tout. Parce que, par exemple, moi, j'aime pas du tout quand on prend, disons, une pièce de Molière ou une pièce... ou même tout bêtement les Trois Mousquetaires, et on change les textes, on change l'histoire, mais on garde l'auteur. Ah non, non, non. Pour se faire mousser, on garde l'auteur, alors qu'on l'a trahi. Je trouve ça profondément malhonnête. Voilà. Alors, revenons à cette forêt que nous aimons. Qu'est-ce qui est prévu avec ce changement climatique? Dites-nous, monsieur le maire.
Ah ben d'abord, moi, j'ai pas la science infuse, et puis d'autre part, je n'agis que sur un petit territoire. Ceci dit, j'en profite pour passer un petit message sur la ruralité. La France, je crois, a une grande richesse, et la première marche de la démocratie, c'est la commune. Il y a encore à peu près un petit peu plus de 34 000 communes en France, et c'est une chance d'avoir cette gestion et ce pouvoir, entre guillemets, de proximité.
Je crois, d'appui.
Je crois que tout le monde s'y retrouve. Et alors, comme je sais plus quel politique a dit, un maire rural, c'est un maire à portée de baffe. Donc on est, on peut pas faire n'importe quoi de notre mandat. Et c'est très bien ainsi.
Et je dois dire que vous avez été réélu joyeusement et magnifiquement.
Bah, c'est sans doute qu'on faisait le travail.
Oui,
mais bon, il ne faut pas se contenter de ses succès. Il faut aussi réfléchir soit sur ses échecs, soit sur les remarques qu'on peut avoir autour de nous et avoir être assez humble pour accepter... De travailler avec tous, y compris avec des gens qui n'étaient pas forcément de notre côté au moment où on a démarré. Voilà.
Oh, mais c'est le village.
C'est le village, c'est le groupe humain. C'est le groupe humain. Oui. On évite les extrémités, parce qu'on sait que l'extrémité, c'est l'excès. Mais tant qu'on est dans ce qu'on appelle en France l'arc républicain, et déjà je ne fais pas de politique, d'ailleurs nous on a été... on a été élus sans étiquette. Tant qu'on est dans l'arc républicain, il y a toujours quelque chose à faire et à espérer.
Alors, les mesures prévues, qu'est-ce qu'on...
Bah, d'abord, peut-être faire un constat. Le constat que la canicule, les incendies, c'est plus un phénomène extraordinaire, mais ça devient répétitif. Et en gros... Il n'y a pas une année où nos étés ne soient pavés de ces mauvaises situations pour nos communes et pour nos régions. Donc maintenant qu'on sait que ça va revenir, il faut agir en conséquence. Alors la prévention déjà, c'est de voir d'où partent les feux et puis d'analyser cela pour que les causes soient les moins nombreuses possibles. 90% des feux de forêt en France sont issus de l'activité humaine. Alors soit sont des pyromanes, alors là les enquêteurs, on en a deux qui se sont désignés comme tels, en tous les cas, pas sur le Vaudois spécialement, mais sur le massif forestier. Il faut savoir que dans le massif forestier, il y a un deuxième foyer qui a démarré beaucoup plus proche de la ville de Fontainebleau, qui était à mi-chemin entre une très belle école internationale qui s'appelle l'INSEAD, et puis un lieu magique, du moins pour les gens qui aiment les chevaux, qu'on appelle le Grand Parquet. Et là aussi, on a eu 400 hectares qui sont partis en fumée. Et les pyromanes étaient, je crois, plus de ce côté-là. Mais bon, encore une fois, je suis pas enquêteur et je me permettrai pas de faire quoi que ce soit qui puisse entraver la justice dans son travail. Les pyromanes, il y en aura toujours. Qu'est-ce qu'il faut en faire? La justice le dira. Et puis derrière, il y a l'accident bête, hein, par désinvolture, hein, le mégot lâché par la fenêtre de la voiture, et puis des départs de feu aussi liés à l'activité humaine. Ça peut être un chantier qui émet des étincelles, ce qui s'est passé d'ailleurs sur l'autoroute A6. Hein. C'est une équipe qui était en train d'assembler des rails de sécurité, puis ça a fait quelques étincelles, ça suffit à faire un départ. Donc voilà, je pense que de ce côté-là, en termes de prévention, il y a sans doute à voir. La prévention, c'est certainement aussi d'adapter la forêt. Quand on a une forêt comme celle de Fontainebleau, qui est très dense, très chaotique, mais avec beaucoup de tourbes, se pose la question peut-être de la sectoriser. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde, en particulier les écolos qui préféreraient qu'on n'y touche pas et que la nature reste toute seule. La réalité d'un feu comme ça, la question se pose vraiment quand on a un massif de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'hectares. Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas faire des grandes tranchées à l'intérieur de 30 ou 40 mètres de large pour éviter la propagation du feu? Alors certes, ça va pas être très joli, mais peut-être qu'on sera amené à faire ça. Là, j'ai par exemple une discussion avec les pompiers. Quand ils ont tourné le dos au feu, et à ce moment-là, ils ont arrosé les maisons, pour pouvoir le faire, ils sont arrivés par la forêt. Et on s'est rendu compte qu'entre la forêt et l'arrière de ces maisons, il n'y avait pas de chemin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir le génie militaire, ils sont venus avec trois bulldozers gigantesques, ils ont créé les chemins. Et derrière, les autopompes des pompiers ont pu venir et arroser les maisons. Il est clair que ces chemins, aujourd'hui, la question se pose, on les maintient ou finalement on laisse la nature reprendre ses droits? Moi, je suis évidemment, comme maire, là pour protéger et nos biens et puis surtout nos vies humaines, pour que ces traces qui viennent d'être créées et qui avaient un vrai service pour les secours, hein, une grande utilité, et ben qu'on se pose la question de les intégrer dans le schéma et qu'ils restent là, et mieux qu'on les entretienne, qu'on les élargisse s'il faut, et puis qu'ils aient en plus des issues sur des voies plus grandes pour qu'on puisse y rentrer. Et c'est comme ça qu'on sauvera le village. Alors ça va sans doute un petit peu changer la morphologie, le paysage de l'Orée du Bois, mais si on y gagne en sécurité, je crois que c'est bien. J'espère, mais je crois que ça va se passer comme ça. On a beaucoup de réunions devant nous, avec, je dirais, tout le monde à bord. Hein, l'État, le département, le SDIS, les communes,
le parc,
mais également l'ONF, le PNR, parce qu'on est, également dans un parc naturel, mais également les associations écologiques, parce qu'on a tous un mot à dire. L'essentiel, c'est qu'on trouve une solution où la forêt reste ou redeviendra belle, mais où elle sera aussi plus sécure pour elle et pour nous.
Oui. Oui, c'est une démarche délicate. Délicate parce que ça fait que ça oppose des groupes. Mais vous êtes un homme de rassemblement.
Je ne sais pas. En tous les cas, à un moment donné, je crois qu'il faut arriver à faire la synthèse entre ses convictions, ses obligations et ses objectifs, et puis regarder ceux des autres. Oui, modestement, le maire peut servir à ça, mais les autres aussi. L'essentiel est que on amène son point de vue, mais qu'ensuite on trouve un chemin commun.
Oui, moi j'apprécie lorsque vous faites des réunions. Il y a des, disons pour le 11 novembre, il y a toujours, après les cérémonies, il y a toujours un vin d'honneur.
Oui.
Et il y a les maires des autres communes qui viennent. Et j'ai trouvé ça très, très chaleureux et certainement que ça doit aider beaucoup. Une forme d'amitié entre vous. entre...
Oui, 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 là on s'évade un peu de l'incendie, c'est tant mieux, mais on
Mais non, mais on peut, il va falloir trouver des solutions.
On les trouvera en commun, évidemment. Quand on se réunit, on est toujours 6 ou 7 maires. Là, actuellement, le feu qui s'est propagé sur le massif de Fontainebleau, on est 6 ou 7 communes impactées. Donc, évidemment, on va se retrouver entre maires, mais petites et grandes communes. L'essentiel, c'est que personne ne soit oublié. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, quand on est... On va faire un petit peu de politique administrative. Quand on est sorti de la dernière guerre mondiale, on avait 3 strates administratives. Hein, on avait la commune, le département et l'État. Depuis, on a rajouté l'agglomération, la région et l'Europe. Donc on est passé de 3 à 6.
Les communautés de communes.
On est passé de 3 à 6, mais je pense qu'il va bien falloir un jour passer de 6 à un petit peu moins. Mais en tous les cas, il ne faudra pas toucher à la commune. L'agglomération qui a été constituée récemment est souvent réformée pour en faire de plus grosses. C'est une bonne chose parce qu'elle nous donne des moyens qu'on n'a pas individuellement. Commune rurale, elle peut être autonome, elle peut pas être indépendante. En l'occurrence, si on n'est pas, nous on a un parc naturel, si on n'est pas au parc naturel, si on n'est pas dans l'agglomération, on n'aura pas les bonnes idées, on n'aura pas les mutualisations et on n'aura pas non plus la force de monter les dossiers qui nous permettent d'obtenir des subventions. Donc on a cette obligation objective. À se retrouver, à fonctionner ensemble. Et vous savez que vous parliez des commémorations. Alors souvent, quand les maires les font simultanément dans leur village, c'est pas à ce moment-là qu'on se retrouve. On se retrouve après. Mais les commémorations, c'est aussi, on en fait 2 généralement, une pour le 8 mai et une pour le 11 novembre. À chaque fois, on a d'abord un message du ministre des Armées. Donc c'est un message général, national, et souvent bienvenu, et qui rappelle l'histoire de notre pays et la chance qu'on a de vivre en démocratie, à ne pas oublier. Et puis après, si monsieur le maire le veut bien, bah il écrit un petit mot davantage destiné à ses ouailles, où il raconte un peu ce qui s'est passé, sans jamais s'éloigner de la commémoration, mais en prenant en exemple ce qui se passe dans la vie quotidienne du village, et donc ça fait une prolongation finalement de la prise de parole où les gens du village se retrouvent davantage. Et puis comme tout se finit sinon en chanson, du moins autour d'un verre de l'amitié, c'est vrai qu'on n'oublie jamais d'organiser un verre de l'amitié derrière. Mais c'est aussi ça le prix de la singularité et de l'ouverture d'esprit dans les villages. C'est les moments où si on peut oublier ces différences. Et on l'a bien vu, nos solidarités, c'est ce qui a fonctionné pour l'incendie.
Ah oui, et puis ça faisait... Il y avait la chaleur du feu, c'est sûr, mais il y avait la chaleur entre nous. Et vraiment, moi j'ai été très, très bouleversée de voir cette France qui d'un seul coup se rassemblait, se réchauffait. On n'avait pas besoin d'être réchauffé avec les canicules. Est-ce que Nathalie veut ajouter quelque chose?
C'est important. Nos Valdéens sont très soudés. En fait, effectivement, il y a cet amour de la forêt, il y a cet amour de notre village, parce que lorsque les gens viennent au Vaudoué, ils viennent chercher le fait d'avoir des voisins, de la proximité, de l'amour, comme vous dites. Donc ça, c'est important. Faire confiance aussi, parce qu'on se connaît tous. Le fait d'avoir un petit village, tout le monde se connaît. Et ça, c'est appréciable.
Et merci, Nathalie, de téléphoner comme ça, gentiment, pour prendre des nouvelles. Alors, je crois que notre émission va bientôt s'achever. Et j'étais heureuse de vous recevoir, monsieur le maire, Michel Calmy, et Chantal qui reste discrète, toujours derrière l'homme, il y a madame, toujours. Et puis la rencontre, pour moi, tout à fait heureuse de rencontrer Nathalie. Et puis c'est aussi le retour de Nathalie, ici, nous avons deux Nathalie. Et puis, pour la première fois, nous avions un valeureux technicien. C'est Michael. Michael, que je n'avais jamais vu ici et qui était vraiment très, très, très gentil et qui a participé en cherchant comment envoyer telle image, telle photo, telle musique, à quel moment, etc. Il était très, très courageux. Voilà. Eh bien, chers amis, merci. Merci à Monsieur le maire, merci à Nathalie, oh Nathalie, et puis à Chantal, qui est muette, décidément. Et puis, je voulais surtout dire merci à tous les pompiers qui sont au feu, qui surveillent les reprises de feu, parce qu'il y en a, même si Monsieur le maire ne nous le dit pas.
Il y en a. C'est simplement vous dire que faut pas avoir les pompiers, évidemment, tout à fait, mais également nos agriculteurs. On a parlé beaucoup de la ruralité ce soir. Faut pas que ça fasse de nous les derniers des Mohicans, pas du tout. Je crois que la ruralité, c'est au contraire un concept très moderne et on ferait bien de s'y attacher. On voit bien que finalement, la nature humaine, le groupe humain s'y retrouve bien mieux que dans une grande ville anonyme. Et nos agriculteurs, qui sont sans doute les plus anciens occupants de nos villages, alors qu'on, avec qui on a parfois des moments d'échanges un peu ferme sur leur façon d'exploiter leurs terres, mais ça c'est un autre débat, mais très ouvert avec eux malgré tout, ils sont là.
Et puis c'est une puissance.
Et c'est une puissance, et on l'a bien vu, et c'est une puissance humaine, c'est des gens qui ont une force, sont des forces de la vie.
On ne leur raconte pas n'importe quoi.
Ils sont très bien organisés. Ils ont, comme on disait dans le temps, la tête près du bonnet. C'est plutôt une bonne chose. Et donc, voilà, ces villages, c'est peut-être un exemple à suivre sur le futur de l'humanité.
Ah, que c'est beau!
Et je peux rajouter, on oublie aussi nos gendarmes qui ont été présents régulièrement, qui ont rassuré les personnes et qui étaient là pour sécuriser nos biens.
Oui, les gendarmes étaient là. Et je me souviens, lorsque je suis partie, ils me disaient « Allez à la salle, allez dans la salle polyvalente, là, c'est très bien. » Ils étaient très affairés et très, très, très présents. Vous avez de bons rapports avec les gendarmes. Qui
oui,
sont là aussi
fait.
Pour
on est
les commémorations.
On n'est pas en zone police, nous, on est en zone gendarmerie. Donc on est toujours prêt. La France, avant, c'était des cantons. Donc on a toujours le chef-lieu de canton, même s'il n'existe plus, puisque maintenant on est agglomération. Le chef-lieu de canton existe et généralement c'est là que se trouve la caserne de proximité. Aussi bien pour les gendarmes que pour les pompiers. Donc il y a cette organisation perdure malgré tout.
Oui.
Et donc on les connaît. Ceci dit, les gendarmes tournent, ils restent pas. C'est un peu comme les préfets quand on n'attend pas qu'ils soient trop amis avec la population, parce qu'après ils auraient peut-être du mal à se faire respecter. Mais pour autant, on a d'excellents rapports, on est très heureux qu'ils soient là. Et le travail entre un maire et sa gendarmerie. C'est vraiment un travail de communion sur bien des thèmes.
Bien, merci à vous tous. Et je vais terminer par la phrase que disait toujours Jean Christaki de Germain à la fin de l'émission. Que Dieu nous garde.
Vous venez d'entendre le libre journal du Monde de la Foi, diffusé en direct ce mardi 18 août 2026 sur Radio Courtoisie de 21h30 à 23h et réalisé par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenirrc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez-le sur CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent à notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.